Vous écoutez RTL.
15h et bientôt 4 minutes sur RTL. C'est l'heure d'écouter On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Bénédicte Tassard. Bénédicte, vous allez rester à notre écoute, mais je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur la formation
sur RTL.
À tout à l'heure. École, activités extrascolaires, société anxiogène, nos enfants sont-ils trop sous pression? On apprend à leur lâcher la grappe tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur RTL et on vous promet de l'échange, des conseils, de la bonne humeur et de la profondeur. Merci pour votre écoute. Vous qui êtes au bureau, dans votre salon, votre cuisine, dans les vignes, vos ateliers, votre taxi, dans les transports en commun, en France, à l'étranger. Vous qui nous écoutez dans votre radio, autoradio, smartphone ou même sur votre ordinateur avec RTL.fr en direct ou en podcast. Ravi que nous sommes donc de vous retrouver aujourd'hui et de vous savoir avec nous comme chaque jour jusqu'à 16h en direct. Sur RTL. Place au sujet du jour. L'enfance ne prévoit pas l'avenir, le seul présent l'intéresse, citait l'essayiste Mademoiselle de Sommery. Et pourtant, de nos jours, il semble que nos enfants soient soumis aux pressions autrefois réservées à l'âge adulte. Sommés de réussir, d'apprendre, d'envisager l'avenir, de gaver le temps en activités extrascolaires, les petites têtes faites pour l'insouciance, le rire, les vermaillements, le jeu et l'ennui pètent, explosent, craquent parfois sous le poids des injonctions et de l'anxiété qu'elles génèrent. Et oui, le burn-out, ce mot qui nous fait tant peur, existe aussi chez les enfants. Alors, quelle est notre part de responsabilité en tant que parents? Comment apaiser les petits esprits tourmentés? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Caroline Penaud, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Caroline. Vous êtes journaliste spécialisée psychologie au magazine Ça m'intéresse, magazine partenaire de cette émission qui propose donc une enquête sur le sujet de nos enfants sous pression. Alors, avec des chiffres qui, quelque part, nous permettent aussi de planter le décor et qui, j'avoue, nous font froid dans le dos.
Oui, alors il y a beaucoup d'études et il y a effectivement des chiffres qui sont édifiants. Il y a une enquête pour le Secours Populaire qui a montré qu'il y avait 58% des enfants, donc qui ont entre 8 et 14 ans, qui ont peur de devenir pauvres un jour. Ouais. Et 2 sur 3 qui ont peur de ne pas trouver de travail. Donc à 8 ans déjà, ils se projettent dans quelque chose qui ne devrait pas être de leur âge, de la peur de pas réussir dans la vie.
À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Millettre. Bonjour Béatrice Millettre.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes docteur en psychologie, spécialiste en sciences cognitives et vous signez Le Burnout des enfants aux éditions Payot avec ce sous-titre « Et si on leur en demandait trop ?» C'est qui on ?
Alors on, quand on parle du burnout des enfants, tout de suite on nous parle des parents. Je dis c'est la faute des parents. Mais le on est beaucoup plus large que ça. Moi je dis c'est le système tout court, c'est aussi bien les enseignants que, excusez-moi Flavie, les médias, pour une grande part, enfin une certaine part, que les copains eux-mêmes, que les parents, que tout l'environnement finalement.
On est dans un environnement stressé. Annie nous écrit sur Facebook, les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus stressés que nous l'avons été. Ils réagissent plus à l'environnement. Les adultes partagent plus leurs ressentis, leurs angoisses. Ils veulent une vie meilleure pour eux et leur mettent plus la pression. Il faut être bon partout, à l'école, en activité extrascolaire. Les enfants sont des éponges. Ils s'inquiètent pour eux, mais aussi pour ceux qui les entourent et qu'ils aiment. Prudence donc dans nos propos. Il y a déjà assez avec ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, effectivement, comme vous le disiez il y a un instant dans les médias. On vit dans un monde qui plonge nos enfants dans l'angoisse ?
Qui plonge en tout cas dans la perplexité et dans le stress. Je crois aussi qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a de l'angoisse, il y a aussi du mal-être, il y a des contraintes, des choses qu'on n'aime pas. Et tout de suite, quand on n'aime pas quelque chose, on nous dit « je suis stressé ». Donc ce n'est pas forcément du stress, c'est peut-être juste un truc dans lequel on n'est pas à l'aise. Mais en effet, quand on partage nos soucis professionnels avec les enfants, quand on leur dit « un adulte sur deux », ça on ne l'a pas cité cette étude-là, mais nous dit « un adulte sur deux a peur de devenir SDF », les enfants, ils l'entendent ça.
Bien sûr.
Et ils grandissent avec cette certitude, c'est même pas une question, qu'ils n'y arriveront pas.
Qu'est-ce qui a changé dans notre société, selon vous, Caroline Penaud ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à cette question aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vous-même été confrontée à ça ? Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous étiez enfant, que vous étiez inquiète pour votre avenir ? Enfin, moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit.
Moi, je n'ai pas ce souvenir-là du tout.
Bah ouais, c'est
vrai que je pense qu'on a plus l'image de l'enfance associée à l'insouciance, d'aller jouer dehors sans trop se poser de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, y a cette peur du déclassement, quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois où la génération, enfin les parents ont peur que leurs enfants vivent moins bien qu'eux, réussissent moins, alors que Jusque-là, il y avait toujours eu l'idée qu'on avait une vie meilleure que ses parents. Et ça, c'est quelque chose d'assez prégnant. Et on parlait des SDF tout à l'heure. Il y a des parents qui, par exemple, vont croiser un SDF, vont parler à leurs enfants, vont dire, bah voilà, il faut bien travailler à l'école pour ne pas finir comme ça. Il y a toujours cette idée-là de peur, de mal, voilà, d'avoir une vie plus difficile que ses parents.
Quand vous parliez aussi de l'accès à l'information, il y a un instant, Béatrice Millette, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants qui ont une certaine autonomie avec leur téléphone portable sont quand même confrontés à des images du monde qui les entoure qui sont quand même super flippantes.
C'est ça, c'est pas toujours très réjouissant et ça ne les incite pas à avoir confiance dans leur capacité à rebondir et à se dire bah, « quoi que je fasse, j'y arriverai ». Donc il y a les parents, c'est vrai, mais il y a aussi tout l'environnement. Et c'est sûr qu'après, ça rejoint un autre débat qui est celui de l'accès aux écrans, dont on ne parlera pas.
Peut-être, pourquoi pas.
Mais qui est aussi problématique, justement. Parce qu'on ne se pose pas la question de l'âge, finalement, auquel les enfants peuvent avoir accès à une information et la comprendre et la digérer avec le recul nécessaire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça n'est pas la faute que des parents. Hein, vous l'avez évidemment précisé, Béatrice Millette, et puis l'idée étant de ne pas nous culpabiliser. En revanche, nous, en tant que parents, on peut faire quelque chose aussi hein, pour pouvoir apaiser nos enfants. On va en parler jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. On va faire un état des lieux, évidemment, hein, du cerveau comme ça de nos enfants et de leur état d'esprit. Et puis, on va vous proposer des solutions et puis on va réfléchir ensemble pour justement leur permettre de recouvrer cette insouciance qui est si précieuse lorsque l'on est enfant. Dans un instant, Magali, qui est une maman Héloïse pourra intervenir sur cette antenne en direct. N'hésitez pas, 3210 et les réseaux sociaux. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
On parle du stress de nos enfants aujourd'hui et puis on parle même du burn-out de nos enfants. Ça, c'est quelque chose que vous constatez régulièrement dans votre cabinet, Béatrice Millette.
Oui, alors ça, je trouve ça très effrayant. C'est que des enfants en burn-out, on en a de plus en plus. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'ils sont stressés. On parlait avant des enfants stressés. Aujourd'hui, ils craquent.
Oui.
Ils craquent. Donc, burn-out, c'est la même histoire que les adultes. Et puis, après le burn-out, bah, ma foi, là, il faut reconstruire, dépression, enfin, tout ce qu'on veut. Mais avec ce vrai craquage nerveux, comme on voit chez les adultes, avec les mêmes causes, finalement.
Donc, il y a les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'un matin, il y a un enfant qui...
Il lâche prise, il n'en peut plus. Épuisement nerveux.
Ouais.
Avec, alors, au préalable, on a un peu des signes avant-coureurs. Ils sont fatigués, épuisés alors qu'ils ne devraient pas l'être.
Ils se renferment un peu.
Ils sont au bord des larmes tout le temps, etc. etc. Et oui, ils craquent.
On va accueillir, si vous le voulez bien, Magali sous l'oreille bienveillante de Caroline Penaud, qui est également notre invitée aujourd'hui en direct sur RTL. Bonjour Magali, bienvenue sur RTL.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, Magali. Vous êtes la maman d'Héloïse. Héloïse, c'est bientôt son anniversaire. Donc, on dira sur l'antenne d'RTL qu'elle a, voilà, elle a 7 ans, 3 quarts, hein, puisqu'elle aura 8 ans dimanche. Donc, on pourrait se dire à 8 ans, si on se projette, nous, dans notre passé, à 8 ans, quand même, c'est l'âge où on rêve d'une vie super. On est encore dans les poupées, les princesses, les machins. Enfin, bon, bref, c'est un peu la Reine des Neiges, quoi. Et bien, pourtant, Héloïse, elle est confrontée aussi à certaines angoisses.
Voilà, et oui, c'est une grande, grande stressée. Tout l'angoisse, tout l'inquiète, que ce soit l'école, que ce soit l'avenir, que ce soit ce qui peut arriver à la société. Voilà, c'est une grande angoissée et c'est quelque chose qu'on doit affronter tous les jours, tout le temps.
Donc vous, j'imagine que vous vous sentez impuissante aussi, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on peut agir et ne pas leur mettre la pression, mais c'est vrai que le monde qui les entoure joue un rôle important.
Ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on a beaucoup de prise là-dessus, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que on a beau essayer de discuter avec elle, lui expliquer que les tremblements de terre se sont dans d'autres pays, que nous tout va bien, que on n'est pas malade, on vit dans un petit village, donc ici les attentats, il y a moins de chances que ça arrive que dans une grande ville. Enfin, on essaye de lui expliquer tout ça, que l'école un jour ça ira mieux et que c'est une passade. Bon, voilà, tout devient hyper compliqué.
Ça se traduit comment?
Par beaucoup de questions,
ouais.
Mais des fois des questions très très poussées, des choses très précises qu'elle nous demande. Et puis après des troubles physiques, c'est-à-dire le matin elle se lève, elle a mal au ventre, ça peut aller jusqu'à faire pipi au lit, les veilles de rentrée à se mettre à pleurer en disant que ça va encore mal se passer. Voilà. Tout l'angoisse.
Elle connaît les raisons de son angoisse, puisqu'elle parle beaucoup, Héloïse. Alors, elle pose beaucoup de questions, mais est-ce qu'elle essaye aussi d'avoir des réponses? Est-ce qu'il y a un événement, par exemple, qui pourrait être le déclencheur de certaines de ses angoisses?
Alors, il y a toujours des raisons précises. Après, j'imagine, on est allé voir une psychologue pour essayer de résoudre ça, voilà, pour essayer de l'accompagner au mieux. La seule réponse qu'on a, c'est que c'est sans doute une enfant qui est très très sensible, et c'est une enfant qui est sans doute très intelligente aussi, donc qui analyse tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, et que du coup, ça crée des angoisses.
Comment est-ce que vous essayez de les apaiser, ces angoisses, Magali? Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, évidemment, il y a le côté rationnel, hein, les tremblements de terre, c'est pas chez nous, mais sur son état, sur...
Des fois, j'essaie de changer de sujet, de faire des jeux, de retomber dans les choses de son âge.
Oui, c'est ça.
De l'emmener faire des sorties qui vont lui changer les idées, etc. Mais c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Et en plus, ce que vous disiez en début de l'émission, on est quand même très culpabilisé. C'est-à-dire que c'est toujours la faute des parents.
On vous l'a dit, on vous l'a signifié, ça?
Oui, beaucoup, énormément.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Comme quoi, s'il était comme ça, c'est que nous, on n'était pas rassurants, on n'était pas cadrants à la maison, que le feu, on ne lui apportait pas assez de cadre, qu'on ne lui apportait pas assez de sécurité, que... voilà.
Elle a des angoisses momentanées. Est-ce qu'elle a des angoisses aussi sur l'avenir, sur ce qu'elle fera quand elle sera grande, comme nous le disait un instant Caroline Penaud, hein, c'est-à-dire les enfants aujourd'hui ont une vision déjà de leur propre avenir qui est assez assez sombre.
Alors en fait, ce qui est assez curieux, c'est que Héloïse, elle a des lubies, entre guillemets, c'est pas des lubies, mais elle veut. D'un coup, elle a un rêve de métier, voilà.
Ouais.
Et son angoisse, c'est de pas y arriver. Donc pendant très longtemps, elle voulait être chapelière.
Ah génial, voilà. C'est super.
Et depuis un an, elle veut être présidente de la République.
Ah c'est pas mal aussi.
Et donc tout d'un coup, et en fait son angoisse, c'est de se dire mais j'y arriverai jamais, je suis pas assez douée à l'école, j'ai pas assez d'idées. Mais t'as 8 ans, t'as le temps. Quoi.
Ouais. Grave.
Mais non.
Elle a des activités extrascolaires aussi, Héloïse?
Oui, elle fait de l'équitation et là, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'angoisse et où tout se passe bien.
D'accord, et elle a une seule activité extrascolaire?
Oui, et d'accord. On y tient.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on pense que, déjà, elle se met la pression pour réussir partout, ce n'est pas la peine de lui mettre 15 activités où elle va multiplier l'intérêt d'être la meilleure. Quoi. Donc, ça se passe très bien en équitation, la prof a très bien compris comment elle fonctionnait.
Ouais.
Donc, la valorise, la met en avant de manière à ce qu'elle prenne de l'assurance. Et pas besoin de multiplier les chances.
Très bien. Vous restez avec nous? On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL avec Caroline Penaud et Béatrice Millettre. À tout de suite, Magali.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Elle s'appelle Héloïse, elle aura 8 ans dimanche prochain et tenez-vous bien, elle sera peut-être chapelière, mais peut-être également présidente de la République. En tout cas, Héloïse, elle est l'objet aussi de notre conversation aujourd'hui avec Magali, sa maman, sur l'antenne d'RTL, en compagnie de Caroline Penaud, qui est journaliste spécialisée psychologie au magazine Ça m'intéresse, et de Béatrice Millettre, qui est psychothérapeute et docteur en psychologie. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à nos enfants, au stress de nos enfants, aux angoisses de nos enfants, aux injonctions de réussir qui sont martelés en permanence auprès de nos enfants et qui parfois aussi frisent le burn-out. Magali, vous êtes toujours avec nous.
Toujours.
Et en tout cas, c'est génial. Chapelière, moi je dis chapeau, hein, pardon, c'est un jeu de mots complètement idiot, mais vraiment je trouve que c'est super parce qu'il y a, il y a de l'originalité, il y a de l'envie, il y a de la création aussi dans cette idée de métier et c'est super.
C'est tout ma fille.
Comment ?
C'est tout ma fille.
C'est tout votre fille. Eh bien, écoutez, en tout cas, on lui souhaite de réussir là où elle a envie de réussir. Mais visiblement, pour Héloïse, il y a quand même une injonction de réussite partout, partout, partout. Et une pression, vous nous disiez, hein, qu'elle se met, elle, toute seule, mais dans un environnement pas forcément familial, mais un environnement extérieur qui lui met aussi la pression. Alors, votre témoignage a été évidemment entendu par Béatrice Millettre. Je vais vous demander de réagir, Béatrice, au témoignage de Magali. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Oui, moi, la première chose que j'ai retenue, c'est quand vous dites, madame, qu'à un moment donné, il faut la ramener à des activités de son âge.
Et oui.
Et qu'en effet, nos enfants aujourd'hui, pas la vôtre en particulier, hein, donc on a bien compris que vous faisiez tout ce qu'il fallait pour et qu'on ne vous jette pas la pierre, bien entendu, mais nos enfants, on les considère comme plus grands qu'ils ne sont. Et ils ont des activités, des raisonnements, et surtout quand ils sont curieux, ils ont accès à des informations qui ne sont pas de leur âge. Et ça peut les déstabiliser s'ils n'ont pas le filtre et si on ne leur explique pas finalement le recul nécessaire à prendre quand on a 8 ans devant, vous avez dit les tremblements de terre, mais ça peut être n'importe quoi. Faut leur resituer les choses dans leur contexte à eux d'enfants. Et souvent, on les considère vraiment comme beaucoup, beaucoup plus âgés qu'ils ne sont.
Mais c'est difficile, hein, Magali. C'est vrai, quand on a un enfant qui pose des questions, c'est hyper difficile de ne pas lui répondre et de rentrer dans un échange passionnant avec eux parce qu'on a l'impression, quelque part, de les priver d'une connaissance qui va les faire pousser, quoi, non ?
D'autant que Héloïse, elle a un langage très développé depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, elle emploie des mots très précis. Donc, des fois, on a l'impression qu'on peut lui donner une réponse. Et alors qu'elle n'est pas forcément prête à entendre la réponse. Donc, il faut toujours expliquer aux gens qu'il faut lui reposer la question plusieurs fois, lui demander ce qu'elle veut savoir exactement, où elle en est, voilà, pour pouvoir adapter la réponse au mieux. Parce que des fois, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis ont tendance à lui donner des réponses en fonction de sa façon de parler qui ne coordonne pas forcément avec ce qu'elle est capable d'entendre.
Qu'est-ce qu'il faut dire, Béatrice Millettre, à un enfant, par exemple, qui ne cesse de poser des questions sur le tremblement de terre, mais comment ça se passe, mais les plaques tectoniques et machin. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces enfants-là?
Je crois qu'il faut lui expliquer ce que vous dites très justement, Flavie. Il faut expliquer les plaques tectoniques. Il ne faut pas expliquer qu'il y a les milliers de morts, les centaines de morts, et puis que ça va lui arriver juste à côté de chez elle. Il faut lui expliquer scientifiquement de quoi elle retourne.
Parce que ça, c'est passionnant.
Oui, ça, c'est passionnant. Surtout un enfant qui pose des questions, je pense que c'est ça qui l'intéressera beaucoup plus. Et puis, il sera très content comme ça.
Donc, ça veut dire qu'apporter des réponses, qu'ils soient des réponses concrètes, qui soient des réponses intéressantes, mais pas forcément des réponses anxiogènes.
C'est ça, et pas des réponses de société, finalement, des réponses, je sais pas comment je dirais ça, de connaissances, des réponses scientifiques plutôt que des réponses de société. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, elle n'est pas un adulte dans un corps d'enfant. Donc, elle ne pourra pas digérer tout ce que nous, on voit aux actualités. C'est pas possible, c'est juste pas possible.
Caroline Penaud, le retour à l'enfance, le retour aux activités des enfants, dans ça m'intéresse, il y a quelques lignes moi, qui m'ont frappée sur le fait qu'à une époque, je sais pas si vous avez vécu ça Magali, mais nos parents nous disaient d'aller jouer dehors. On jouait dehors, on jouait avec un ballon, des rollers, des bouts de bois, on jouait dehors. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont hyper confinés aussi.
Ils sont confinés parce que les parents ont peur, souvent, pas forcément à raison, mais parce que voilà, on entend beaucoup de choses dans les médias. On a peur des enlèvements, de choses comme ça. Effectivement, on a peur et les enfants sont confinés soit à l'intérieur, soit dans des aires de jeu grillagées. Et il y a une étude assez intéressante qui a été faite en Angleterre. On a comparé les enfants il y a 80 ans, ils allaient parfois à 10 km pêcher à la ligne. Et aujourd'hui, on les laisse pas aller à 100 mètres à la boulangerie. Et du coup, ils n'ont pas parfois cette liberté, cette possibilité de faire un petit peu des choses cachées pour grandir.
Oui, et puis en plus, avec la créativité que ça engendre, parce que l'ennui, c'est un truc important. Elle s'ennuie de temps en temps. Magali, je vais vous demander une réponse très rapide, parce qu'on a peu de temps sur RTL. Mais Héloïse, elle a des moments aussi d'ennui ?
Pas beaucoup, parce qu'elle elle a beaucoup, beaucoup d'imagination.
Donc elle sait s'occuper. Mais enfin, elle a des moments où elle est seule dans sa chambre et où elle doit faire avec.
Oui, beaucoup. Oui,
mais elle trouve des réponses.
Oui.
Donc ça, c'est quand même super important. Magali, je sais que vous allez rester à notre écoute jusqu'à 16h sur RTL. J'espère qu'on pourra vous apporter quelques éclairages. Vous allez rester en ligne. On va vous envoyer le livre de Béatrice Millettre. Peut-être que ça pourra vous apporter.
Surtout, je l'adore.
Vous avez bien raison. Nous aussi, on l'aime bien. Et on va vous envoyer son ouvrage après l'émission. D'accord ? Ça pourra vous éclairer.
Merci beaucoup.
On vous embrasse. Au revoir, Magali. Et puis sachez, non seulement l'ouvrage de Béatrice Millettre, mais en plus, comme vous êtes intervenu sur l'antenne, sachez que cette semaine, le réseau de parfumerie et les instituts Beauty Success et RTL offrent à tous ceux qui nous parlent sur cette antenne un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 €. Donc voilà, donc c'est cadeau, c'est Noël avant l'heure. Voilà.
Eh ben merci beaucoup.
On vous embrasse Magali, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
RTL aime la musique.
Des standards. Money,
money, mais aussi des nouveautés.
We are from the north. We came from the south. We are
the. Et des découvertes.
On aime la musique sur RTL.
RTL. Première radio de France.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Vous pouvez nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également appeler le 3210 si vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui le sujet du burn-out des enfants. Alors c'est vrai que ça fait super peur quand même, Béatrice Millettre, hein, ce mot burn-out. Déjà en tant qu'adulte, c'est un sujet grave qu'on aborde régulièrement sur cette antenne. Maintenant, dès lors où il s'agit d'enfants, on a le sentiment que pour le coup, c'est très vite courir le risque de faucher un devenir, quoi, hein. C'est une épreuve qui est super difficile.
Oui, c'est une épreuve. C'est quand moi je reçois les enfants qui sont en passe de craquer, alors ça on peut les aider plus facilement que quand ils ont déjà craqué.
Ouais.
Parce que quand ils ont craqué, c'est compliqué. Alors ce que je dis quand même, c'est que oui, c'est très compliqué. En même temps, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien. Parce qu'une fois qu'ils ont craqué, ouais, ils sont obligés de repartir dans une direction qui va leur correspondre exactement. Il n'y a plus de faux fuyants, on ne peut plus transiger, il n'y a pas de demi-mesure. Une fois qu'ils ont craqué, qu'ils sont à l'hôpital, qu'il y a des tentatives de suicide, de tout ce qu'on veut.
Enfin là, c'est super dur, quoi.
Ah ben, je n'ai pas dit que c'était... Voilà, c'est très, ouais, très difficile. Mais au moins, on est sûr qu'ils vont repartir correctement. Mmh. Parce qu'il n'y a plus le choix.
L'idée, c'est de prévenir ça, évidemment. Oui, et puis aussi d'expliquer qu'on peut restaurer l'enfance, hein, chez un enfant qui avait vécu ça, on peut restaurer aussi l'insouciance, on peut remettre un enfant dans l'enfance.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Moi, je me souviens, une petite jeune fille, elle avait 10 ans en 6e, elle arrive avec ce discours-là exactement, il faut que j'ai 20 sur 20 tout le temps parce qu'il faut que je fasse des études pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour ne pas être SDF à 10 ans. Donc la séquence était comme ça. Bon, on discute un peu, et je lui dis qu'est-ce que tu veux comme métier, donc les grandes études forcément, blablabla. Et à un moment donné, elle revient, je l'ai envoyée chez sa grand-mère faire une cure de gâteaux et de vélo. Et elle revient, elle me dit, je serai boulangère. Ah, bah je lui dis, c'est merveilleux. Ouais. Tu as tout compris, continue comme ça.
Ouais, c'est ça.
Elle était en 6e, elle avait 10 ans.
Et comme Héloïse, 8 ans, qui voulait être chapelière.
C'est ça.
C'est
ça.
Trop bien.
C'est trop bien. Parce qu'on oublie, en France, c'est ce qu'on dit, on a un adulte sur deux qui a peur d'être SDF. Donc il transmet cette inquiétude, sa préoccupation, j'ai envie de dire, à ses enfants. Mais là où on se trompe, c'est que la solution qu'on envisage, ce sont les études, le diplôme, les grandes études. Et on peut être chapelière, on peut être... Moi, je connais une petite jeune fille, elle est luthière, elle reprend l'atelier de lutherie, donc elle fabrique des violons. Elle a 14 ans. Mais c'est merveilleux, et on retombe beaucoup mieux sur ses pattes comme ça, que j'en vois beaucoup aussi, des jeunes sortis de grandes études qui arrivent et qui sont au chômage pendant 1 an, 2 ans, machin, parce que c'est compliqué.
Mmh. Et tout ça pour rassurer les parents, parce qu'il y a cette idée effectivement que tout est écrit, que tout doit être tracé et qu'il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, je pense qu'un enfant heureux, c'est un enfant aussi qui est libre de son point de vue et à qui, chez qui on cultive aussi le libre arbitre et le quant à soi, ça me semble important. Un message de Valérie. L'école est aussi au cœur du problème. À force de mettre les enfants à l'épreuve de façon trop précoce, on en fait des bons petits soldats écrasés sous le poids des injonctions de réussite. Voilà pourquoi j'apprécie les écoles Montessori. Méthode où l'on travaille d'abord avec les points positifs de l'enfant et non l'inverse, où l'on ne demande pas à l'enfant de rentrer dans des cases. Mon fils est dans un collège Montessori, j'en suis très contente, mais surtout lui se sent très bien. Est-ce qu'il n'est pas aussi question, quand il s'agit d'école, de remettre les enfants au cœur de cette question qui les préoccupe tant, en réalité ?
C'est vrai que l'école française est souvent critiquée parce qu'elle cultive l'esprit de compétition. Il y a évidemment le système de notes. Voilà, on débat souvent est-ce qu'il faut des notes ou pas. Il y a des pays où il y a en place, il y a plus de zéro, ça commence à 4 par exemple. Il y a toujours ces notes, cet esprit de compétition qui fait que l'enfant se sent. Il y a aussi l'échec, l'erreur qui n'est pas valorisée, alors que notamment dans le système Montessori, l'erreur permet d'apprendre. Ouais. Donc c'est vrai que il y a pas mal de choses à revoir à l'école et peut-être les enseignants aussi pour que l'enfant se sente un peu moins en compétition en permanence.
On accueille Axel, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Bonjour Axel.
Bonjour Flavie.
Dites donc, vous étiez en train de faire des macarons ?
Oui. Je fais des macarons et j'apprécie vous écouter tous les après-midi. Ça fait du bien au moral, ça donne de l'énergie et puis je vais deux fois plus vite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la positivité, c'est top.
Écoutez, ça nous fait super plaisir. Merci parce qu'on sait qu'on est écouté aussi chez les gens, parfois sur leur lieu de travail. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui nous touche. Alors le premier mot qui m'a sauté aux yeux en lisant votre message sur Facebook, c'est macaron. Mais évidemment, après, c'était votre fils Léo. Oui. Dans un instant, si vous patientez encore quelques instants, si vous le voulez bien, Axel, vous allez nous raconter ce qui vient d'arriver à Léo. C'était vendredi dernier. Mmh. Il faut préciser que Léo, il a seulement aujourd'hui 4 ans. Il a l'âge de manger des macarons, mais il n'avait pas l'âge de vivre ce qu'il a vécu vendredi. Vous allez nous expliquer ça sur l'antenne d'RTL dans un instant. À tout de suite, Axel.
À tout de suite, merci.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Axel, vous êtes toujours avec nous ? Allô, allô,
oui,
Axel.
Oui, je suis là, Flavie.
D'accord, très bien. Alors, votre petit Léo, il a 4 ans, il est en moyenne section de maternelle.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à 4 ans? On fait, on joue, on fait des dessins, on apprend des comptines.
Oui, c'est ce qu'on pensait, nous. Enfin, oui, on apprend des comptines, on apprend les lettres de l'alphabet. Bon, après, il y a une méthode qui est super pour apprendre à lire et écrire, qui est la méthode des alphas, qu'il a déjà assimilée lors de la première section, la petite
ouais.
section,
ouais.
l'année dernière. Donc, ça se passait bien. Il a gardé la même maîtresse que cette année. Donc,
donc
on pensait vraiment que tout, mmh.
tout
allait bien. Mmh. Il va à l'école en courant, donc
bon.
ça va plutôt bien.
Il est comment, Léo, si on devait le définir? C'est quel genre de petit garçon?
Alors, c'est un garçon qui est très, très observateur. Et qui cherche déjà à comprendre plein de choses. C'est-à-dire que sa ouais. première phrase construite, ça a été « Maman, comment ça marche ?» et il parlait de l'électricité
D'accord.
au niveau des prises. Donc là, on est un petit peu prise de court, mais, mais c'est voilà, un petit garçon qui va être à observer et qui cherche à comprendre les choses, qui est très intéressant et très, très intéressé du coup.
Voilà, mais donc c'est un petit garçon aussi qui joue, c'est un petit garçon normal quoi, Léo. C'est...
Ah oui, il est plus mobile, c'est sa vie. Hein. Enfin,
D'accord.
Ça, c'est...
Donc classique. Hein.
C'est ça.
Qu'est-ce qui lui est arrivé vendredi dernier?
Alors vendredi, on en cherchait à l'école. J'ai été une des premières mamans à arriver. Donc normalement, la maîtresse appelle l'enfant l'enfant avec qui elle voit les parents, quoi. Et puis moi, elle appelait pas Léo. Donc je commence à chercher un peu dans la classe où il était. Et là, je vois mon petit bonhomme avec ses petites lunettes tout embuées, la tête toute rouge, les yeux tout gonflés. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Il avait pas son manteau, donc il était le seul à pas être prêt. D'accord, je dis à la maîtresse, excusez-moi, vous m'avez pas vu, ou enfin Léo voulait pas, il n'a pas son manteau. Ah non, mais il faut que je vous explique, il s'est passé quelque chose, je vais vous expliquer. Bon, donc j'ai attendu que tous les parents récupèrent leur enfant. Mmh. Et donc à la fin, elle me dit, écoutez, Léo en fait ne veut pas travailler, donc il n'a pas fini son exercice.
Mmh.
Alors je lui dis, excusez-moi, je comprends pas, enfin, l'exercice, quel exercice? Alors, elle me dit apparemment, c'était la date et faire des lettres. Donc, il a pas fini cet après-midi. Donc, il faut absolument qu'il comprenne qu'il est là pour travailler tout seul et que je ne peux pas être continuellement avec lui à ses côtés.
Mmh.
Et qu'il faut absolument qu'il prenne l'habitude de travailler.
Mmh.
J'ai écouté, d'accord, je ne pensais pas que la méthode est un petit peu brute. Et je dis, moi, à 4 ans, je ne me rappelle pas... qu'il faille faire des exercices et il y a eu plein d'autres histoires comme ça parce qu'il attachait pas son manteau tout seul. Alors c'est vrai, comme je lui ai dit, le fait que vous nous en ayez parlé, parce qu'elle galérait apparemment depuis le mois de septembre avec Léo depuis la rentrée, elle nous en a parlé début novembre. Donc je pense qu'on aurait pu se parler avant, parce que d'une simple discussion avec lui le soir, parce que nous, comme bons parents, on pense bien faire le matin en voulant gagner 17 secondes
ouais.
et lui accrocher son manteau, alors que non,
c'est
il faut
clair.
Effectivement laisser faire, mais on l'a tous fait, je pense qu'on le fera encore.
Absolument.
Et donc, ne serait-ce qu'en lui en parlant le soir, le lendemain, c'était réglé, il s'est mis son manteau tout seul, donc je dis, avant de mettre des punitions comme ça, je pense que vous devriez plutôt nous en parler, quoi. Donc bon, le week-end s'est fait, mais seulement la nuit de vendredi à samedi a été horrible, cauchemar sur cauchemar.
Ouais.
week-end, ça a vraiment pas été top, avec des phrases « je ne vais pas y arriver »,« je ne sais pas faire »,« de toute façon, je ne vais pas y arriver », maman, tu peux m'aider, je ne peux pas. Donc, on a rendez-vous avec la maîtresse vendredi parce qu'elle ne pouvait pas nous recevoir avant. Mais il est clair qu'on va mettre les choses à plat puisque c'est pas normal qu'un enfant de 4 ans ait un dialogue comme ça et qu'on lui inflige une punition, le privé de goûter, le privé de récréation avec ses copains. Enfin, c'est complètement aberrant. Enfin, à 4 ans, c'est...
Voilà. Oui. 4 ans, c'est 4 ans. Voilà, c'est même difficile à expliquer. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour incriminer l'ensemble des enseignants de France, parce que on sait aussi certains des efforts concrets qui sont faits aujourd'hui pour remettre l'enfant vraiment au cœur de l'enseignement. Néanmoins, c'est vrai que là, c'est quand même une histoire qui est assez symptomatique d'une pression qu'on peut déjà mettre à des tout petits, Béatrice Millettre.
Oui, la pression, elle est dès la petite section. C'est certain que on a beau savoir que les erreurs font partie de l'apprentissage. On parle d'apprentissage par essai-erreur. Les enfants n'ont pas droit à l'erreur.
Ouais.
Moi, je me souviens d'un petit bonhomme en petite section. C'était marqué « remédiation ». Vraiment, la maman va voir l'instit. Remédiation, parce que dès le premier coup, il ne savait pas découper droit. À 2 ans et demi, 3 ans. Donc remédiation sont des mots qui sont quand même forts. Sous-entendu, on doit savoir déjà les choses avant d'arriver, et on n'a pas le droit de pas savoir. Donc bon, que peut-être ce petit bonhomme, il n'ait pas fait son exercice aujourd'hui. Bon, voilà, il n'a pas fait son exercice. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne le fait jamais ? Ce qui n'est pas la même histoire. Et puis, plutôt que de punition, on peut parler de conséquences. Parce que des punitions, d'abord, privées des copains et du goûter, ça ne peut jamais... que ce soit dans la sphère familiale ou dans sphère éducative, c'est pas éducatif. Donc il y a autre chose qui se passe, pourquoi pas, on n'y était pas, moi je sais pas, je pourrais pas juger, mais pas de cet ordre là on n'est pas là, enfin personne n'est là, ni les enfants, ni les copains, ni pour démolir les enfants, on est là pour les aider à se construire.
Alors après, les parents récupèrent un petit Léo qui a le moral dans les chaussettes et dont la confiance en soi est brisée. Bon, ça se restaure, hein, évidemment. Et puis je pense, Axel, que vous allez vous employer à le faire. Et en plus, en parlant avec la maîtresse, que j'imagine vous allez rendre aussi complice hein, de toutes les bonnes choses à venir. J'imagine qu'elle va s'engager pour essayer de rattraper ça. Mais c'est vrai qu'il y a nos enfants qui sont soumis très très tôt à cette pression de l'école. Et je vous remercie, Axel, en tout cas, d'en avoir parlé avec nous sur l'antenne parce que c'est assez symptomatique et on avait envie de vous entendre.
Ben non, mais c'est normal.
Vous embrasserez Léo ?
Oui.
Bon macaron.
Oui, c'est très
bon. Bon, ça, c'est un peu cruel pour nous. Hein,
non, mais
bon.
Je vais vous en envoyer. J'avais pour ce projet de vous en envoyer. Je vous promets que je vais le faire avant les fêtes.
Alors, tout le monde opine du chef hein, dans le studio. Super. Eh bien, nous, en échange, vous savez quoi ? Parce que, bon, c'est un peu du troc, hein, cette histoire. On vous envoie un magnifique panier beauté d'une valeur de plus de 100€ de Beauty Success. Ah, voilà, super. Ça arrivera dans quelques temps chez vous. Génial. On vous embrasse, Axel.
Oui,
et puis, plein de bonnes choses pour vous et surtout pour Léo. À bientôt sur RTL.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci encore à Axel pour sa confiance. On va revenir, avant d'apporter des solutions, on va revenir sur des chiffres hein, qu'on retrouve dans Ça m'intéresse, Caroline Penaud, sur notamment le soutien scolaire. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants ont la pression pour réussir à l'école, mais les parents, nous aussi. Quoi. C'est-à-dire que parfois, on précède même hein, l'apprentissage de nos enfants. On voudrait qu'ils lisent avant leur entrée en CP. On essaie en toute bonne volonté. Hein. On veut les aider.
On veut le meilleur pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent réussir. Donc effectivement, ça va être du soutien scolaire. La France est championne du soutien scolaire et ça commence de plus en plus tôt, même à l'école primaire. Ouais. Ça va être aussi les cahiers de vacances, les passeports de la maternelle au CP qu'on va faire pendant les vacances pour effectivement, comme vous disiez, apprendre à lire avant d'entrer en CP. Vraiment l'idée de précéder, d'être le meilleur, de donner toutes les chances. Donc ça part d'une très très bonne intention des parents, mais parfois ça va un peu trop loin.
Au niveau du soutien scolaire aujourd'hui, il y a un boom du soutien scolaire à la maison ?
Alors, il y a des chiffres, il y a un collégien, sur cinq qui fait du soutien scolaire, un lycéen sur trois, et puis ça augmente, voilà, ça augmente de plus en plus. Je vous dis, en primaire, ça a doublé en fait les enfants qui ont du soutien scolaire dès le primaire en quelques années.
On n'aura pas le temps de parler de toutes les activités extrascolaires également. Hein. On a des enfants qui parfois ont des mercredis ou des week-ends, on dirait des journées de ministres. Non mais c'est vrai, c'est affolant quoi. En plus pour les parents, on est toujours là en train de les emmener à droite, à gauche et tout. C'est vraiment pas le truc. C'est agréable pour personne et parfois nos enfants aussi sont mis sous pression et ça leur bouffe du temps libre qui pourrait passer à faire autre chose. Flo nous écrit, je suis assistante maternelle et oui, je trouve qu'on en demande beaucoup aux enfants. Les parents essaient de nous mettre la pression pour qu'ils fassent le plus de choses possible dans la journée et ne parlons pas des crèches qui organise chaque jour ses ateliers, peinture, pâte à modeler, etc. Pourquoi ne pas les laisser jouer, tout simplement ? Voilà. On va revenir sur le comportement d'Axel, si vous le voulez bien, Béatrice Millet. Vous avez souligné la pertinence d'Axel, de son rendez-vous, en tout cas avec l'Institut de Léo.
Oui, je trouve que des parents comme ça, c'est merveilleux parce qu'ils ont compris leur rôle de parent, si je peux dire, qui est aussi de faire l'intermédiaire entre l'école et leur enfant. C'est-à-dire de décoder ce qui se passe à l'école, parce qu'un enfant, quand il va à l'école, il y a les figures de référence qui sont les instits et qui ont forcément raison. Et donc là, on se rend bien compte que l'instit n'a pas raison. Avec les éléments qu'on a, l'instit n'a pas raison. Et donc c'est difficile pour l'enfant de dire, il se trouve avec une injection paradoxale, on appelle ça comme ça, d'un côté l'instit c'est le référent et de l'autre côté il a tort. Donc c'est aux parents de justement réexpliquer à la maison ce qui se passe, que l'instit n'a pas toujours raison. Alors souvent les parents quand je dis ça me disent oui mais on peut pas les mettre en porte-à-faux. Non, mais on peut dire que ce sont des êtres humains qui commettent des erreurs. Donc ils n'ont pas toujours raison. Et on peut dire, remettre l'école à sa juste place. Donc ça, moi je suis désolée, quand je reçois des enfants, je dis toujours que, excusez-moi, c'est une vaste fumisterie l'école, je le dis comme ça, où on envoie les enfants... Ça, oui, non, mais on
15h52, Béatrice Millettre se lâche.
Merci Flavie. Et qu'on les envoie avec l'idée qu'ils vont apprendre plein de choses. Donc ils vont apprendre des choses, c'est vrai. Mais pas que. Et que l'école, c'est pas la panacée, c'est pas là où tout se fait. Et donc il faut bien leur expliquer ça, parce que sinon, ils sont en porte-à-faux les petits bouts.
Ils sont en porte-à-faux. Vous nous disiez il y a un instant, il ne faut pas incriminer non plus l'école parce qu'il y a de la bonne volonté de la part des enseignants, mais il faut savoir aussi avoir le recul nécessaire. Et puis peut-être être partenaire de l'école, essayer de rentrer dans une sorte de relation de partenariat pour le bien-être des enfants.
Exactement, et c'est ce que demandent, moi je côtoie des enseignants, des chefs d'établissement, c'est ce qu'ils demandent aux parents, d'être partenaire justement pour une meilleure éducation des enfants, pour que les enfants aillent bien. C'est le rôle qu'ils se sont donné et c'est la réalité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que les parents aussi, et je le dis toujours, les parents sont les meilleurs experts de leurs enfants. Nous, en tant que professionnels, on peut conseiller des réflexions, mais c'est eux, les professionnels, finalement, de leur propre enfant. Et il faut, à un moment donné, qu'ils acceptent de s'écouter. Ce qui n'est pas toujours facile. Et par exemple, moi, quand je donne ce petit conseil de dire, vous donnez un joker à votre enfant une fois par mois, il sort le joker, il ne va pas à l'école. Les parents me disent, oui, mais ça, je le fais déjà, mais je n'ai pas le droit. Ah, mais si, vous avez le droit. Votre enfant, quand il a 42 fièvres, il ne va pas à l'école. Donc là, c'est bien pareil. Quand on sent que son enfant n'en peut plus, on le retire.
Qu'il n'en peut plus, oui.
Ou qu'il a besoin. Il faut lui faire confiance aussi à notre enfant. Il a besoin, ce jour-là, il dit « Non, mais maman, je ne peux pas y aller, je ne peux pas, j'y arrive plus. » Ou « Demain, je ne peux plus y arriver. » Eh bien, il n'y va pas. Il n'y va pas pendant un jour, deux jours. Et il va faire autre chose. C'est ça. Et c'est super chouette. Et c'est là où on apprend plein de trucs à partager du temps avec son enfant. Parce qu'on oublie aussi de partager des bons moments.
Je suis d'accord avec vous. Caroline Penaud, les symptômes, vous y intéressez, hein, dans ça m'intéresse. D'ailleurs, tous ceux qui n'auront pas qui ne seront pas rassasiés complètement sur le sujet, comme à chaque fois d'ailleurs, pourront se tourner vers vos différents ouvrages. Mais dans ça m'intéresse, on s'intéresse justement aussi aux symptômes. Et puis pour pouvoir y répondre, qu'est-ce qui doit alerter ? C'est un comportement brutal de l'enfant, un changement de comportement.
Brutal, je crois pas, ça s'installe progressivement, mais c'est vrai que, comme disait Béatrice Miel, voilà, être à l'écoute de son enfant, déjà c'est la première chose, essayer de voir effectivement s'il y a un petit changement, essayer de le faire parler si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis voilà, comme vous dites, revenir aux fondamentaux, c'est de l'hypersensibilité, c'est effectivement des pleurs fréquents, on parlait des problèmes de sommeil, ça c'est quand même un symptôme assez fréquent, et ensuite c'est d'essayer de mettre en place avec son enfant, c'est-à-dire qu'au lieu d'exiger toujours le meilleur de lui, de voir avec lui ses points forts, ses points faibles, et puis comme on disait, de faire des choses fondamentales comme le jeu, de revenir à ce qui est l'essence même d'un enfant.
Et puis de réfléchir à ce qu'on était au même âge aussi, parce que c'est quand même incroyable, on est passé par l'enfance, on sait à quel point elle est précieuse et importante, et donc quelque part aussi, cette pression qui est mise à nos enfants et qu'on peut leur mettre nous en tant que parents, c'est une façon de nous rassurer. Est-ce que c'est pas notre propre stress ? Je n'incrimine pas non plus les parents, mais néanmoins, voilà, on a tous notre part de responsabilité dans cette histoire. Est-ce que c'est pas notre propre stress qu'on est en train d'essayer de régler aussi à travers cette histoire, Béatrice ?
Oui, je pense, parce que comme on le disait, les parents ont peur, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais est-ce qu'ils se posent la question de ce que c'est le meilleur pour son enfant ? Je crois pas. On est parti plus ou moins tous autant qu'on est, du principe qu'un enfant qui sera bien aura fait des grandes études. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'études statistiques. On nous dit les gens qui réussissent ont fait des études, mais on peut réussir. Enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière la réussite. Le bonheur, c'est autre chose. Et ça, on se pose pas la question. Je sais, quand je donne des conférences, je pose une question bête, hein, comme d'habitude, à un moment donné. Pourquoi voulez-vous que vos enfants aient toujours 18 sur 20 ? Et là, bizarrement, il y a un grand silence. Et personne ne sait pourquoi. Puisque aujourd'hui, avec 10 sur 20, on passe dans la classe du dessus, et même comme on ne redouble plus, les notes n'ont aucun sens. Donc on nous dit qu'il faut 18 sur 20, alors que dans le fond, avec 0, on passe quand même. Donc, mais c'est l'absurdité du... Et les parents ne savent pas pourquoi. C'est juste parce qu'on leur a dit, comme on disait, la comparaison aux autres à la sortie de l'école, c'est quand même un peu effrayant.
Voilà, posons-nous les bonnes questions, essayons en tout cas de répondre à l'anxiété de nos enfants. Dans un instant, je vais vous parler, ah tiens, c'est pas mal non plus en termes de pression, je vais vous parler du sujet de demain.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Bon, et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était passionnant, comme chaque jour, mais on ne va pas s'enlacer quand même. Merci beaucoup, Caroline Penaud, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle, le magazine Ça m'intéresse, partenaire donc de cette émission, qui s'intéresse au stress de nos enfants. Les enfants sont-ils trop sous pression ? Au Père Noël, au rituel. Enfin bon, c'est passionnant comme à chaque fois. Voilà, donc on vous le conseille, c'est en kiosque. Et puis, le burn-out des enfants, c'est aux éditions Payot, et c'est Béatrice Millettre, donc, qui le signe pour effectivement nous permettre... d'aborder au mieux, en tout cas, ces mots de l'enfance qui ne devraient pas exister, parce que c'est des mots d'adultes qui sont devenus des mots des enfants.
C'est ça.
Donc il y a quand
c'est
même
ça.
Un truc ça qui ne va
devrait pas exister,
dans cette histoire. Très bien. On a des messages qui nous sont arrivés. Cédric, eh bien, de mon côté, mon fils de 11 ans est encore bien dans l'insouciance et j'adore ça. Pas de stress, je le préserve. Il faut discuter avec nos enfants, leur apporter des réponses, mais bon, des réponses, comme on le disait, toujours adaptées. Et Magali, je ne sais pas si nos enfants sont stressés, mais qu'est-ce qu'ils sont stressants ? Bon, bah oui, ça c'est vrai aussi, qu'il fallait quand même finir par un hommage à nos enfants, parce que, non mais c'est vrai, ils sont super, on les adore, mais enfin, ils nous stressent aussi quand même un peu de temps en temps. Hein. Voilà, très bien. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Demain, on se retrouvera à 15h avec vous. Nous serons en direct sur l'antenne d'RTL. Vous pourrez, comme chaque jour, composer le 3210 ou vous rendre sur les réseaux sociaux. Vous savez de quoi on va parler demain ? On va parler d'amour, on va s'intéresser au couple. Ben oui, on finit bien souvent par être agacé par ce qui nous touchait, nous amusait dans un premier temps chez l'autre. Alors peut-on changer la personne que l'on aime ? Pourquoi cherchons-nous à le faire ? Et comment continuer à apprécier nos différences ? Ben, ce sera l'objet de nos conversations demain, donc avec vous, dès 15h sur l'antenne d'RTL. Ben écoutez, eux, ils ne changent pas, ils sont toujours sur le registre de la bonne humeur. Voici Laurent Ruquier et toutes ses grosses têtes. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain sur RTL.
Vous écoutez RTL.